Roche Blanche d'Amédée Achard. À une demi-lieue à peu près de la Loire, sur la rive gauche, non loin d'Amboise, et proche d'un village qui éparpille ses maisons parmi les prés, s'élève un château connu dans le pays sous le nom de Roche Blanche. Ce château, malgré son nom, qui pourra faire croire à une origine féodale, est bien le plus honnête, le plus patriarcal et le plus modeste de tous ceux qui mirent leur toit et leur tourelle dans les eaux du fleuve. Au contraire de ses voisins d'Amboise, de Bury, de Chaumont, d'Onzain, de Chenonceau, debout ou renversé, Roche Blanche n'a pas d'histoire, et le plus habile chroniqueur eût été fort en peine de recueillir dans le pays aucune tradition qui le concernât. On savait seulement qu'au lieu où on le bâtit, vers le commencement du XVIIIe siècle, s'élevait une haute tour qui avait appartenu jadis au comte de Blois et qui, abandonnée depuis un siècle, s'était une nuit écroulée sous l'effort des orages et du temps. Roche Blanche était, depuis une centaine d'années à peu près, le patrimoine d'une famille de gentilshommes tourangeaux qui avait échappé, sans quitter le pays, à tous les désastres de la terreur. En ce temps-là, cette famille se composait d'une femme et de trois enfants, deux filles et un garçon. Paisibles et retirés dans leur château, comme une couvée de fauvettes dans un buisson, l'ouragan avait passé par-dessus leur tête sans les atteindre. Les filles avaient grandi et s'étaient mariées à des propriétaires voisins. Le petit garçon était devenu le maître et rien n'avait été changé dans les mœurs de la colonie. Le château se composait d'un corps de logis élevé d'un étage sur rez-de-chaussée et de deux ailes terminées par de petits pavillons mansardés. Une espèce de terrasse qui régnait tout autour des bâtiments les séparait d'une pelouse plantée de chênes, de trembles et de peupliers, à laquelle on descendait par un escalier haut de 3 ou 4 marches. Cette pelouse, légèrement inclinée vers la Loire, unissait le château à un parc de 100 arpents, dont les derniers arbres trempaient leurs pieds dans l'eau. De ce côté-là, le regard suivait le cours du fleuve, dont les méandres se tordaient comme une couleuvre d'argent dans la campagne. Du côté du midi, la façade de Roche Blanche dominait un plateau où la charrue traçait de grands sillons et que fermait une ceinture de forêt. Au moment où commence cette histoire, le mois de septembre touchait à sa fin. La journée avait été belle, la soirée était calme. Derrière les campagnes voilées de brume où la Loire fuyait sous un rideau de peupliers, une zone écarlate indiquait la place où le soleil allait disparaître. La brise qui vient avec le crépuscule agitait les arbres frissonnants et faisait pleuvoir dans les champs des tourbillons de feuilles jaunes détachées de la forêt déjà rouillée par l'automne. L'heure du travail était passée. Une agitation pleine d'ordre et de sérénité remplissait la ferme qui s'élevait à l'extrémité du plateau en face de Roche Blanche. Devant la grande porte ouverte de la cour, un homme se tenait assis sur un banc de pierre. Cet homme, vêtu d'un sarrau de toile grise et d'un pantalon de velours à côtes, pouvait avoir 50 ans, bien qu'il ne parût pas en avoir plus de 40. Il tenait à la main un fort bâton de coudrier, sur lequel il appuyait son large menton, tandis qu'il contemplait d'un œil tranquille le spectacle imposant que présente la campagne à la chute du jour. Mais la beauté de ce spectacle n'occupait pas la pensée du laboureur, trop accoutumé à le voir pour y prêter la moindre attention. Il suivait d'un regard attentif le mouvement de la ferme, éveillé à ce que tout fût en ordre et selon qu'il l'avait ordonné. En ce moment et dans la profondeur des bois dont la lisière touchait presque la ferme, on entendit retentir les aboiements d'un chien. Un coup de fusil partit au même instant, et un chevreuil sortant comme une flèche du milieu des arbres traversa un chaume et vint tomber à l'entrée de la cour. Un chien à poils roux marqués de blanc le suivait et sauta sur la bête blessée au flanc. À cette vue, le fermier se leva et regarda du côté de la forêt où l'on voyait au-dessus d'un taillis s'envoler un flocon de vapeur blanche. « Mon fils, » dit-il à voix basse. Un grand jeune homme parut bientôt après et se dirigea vers la ferme, le fusil sur l'épaule. Les cris du chien, la détonation et la chute du chevreuil avaient attiré l'attention des gens de la ferme, dont quelques-uns plus curieux regardaient l'agonie de l'animal pris à la gorge par le chien roux qui grondait furieusement. Le chevreuil, la tête ployée en arrière par la violence de la douleur, s'enlevait parfois sur ses genoux puis retombait encore. Il se débattit un instant, faisant voler la paille et la poussière sous ses pieds, se renversa sur le côté, roidit ses jambes et mourut. Cependant, le fermier n'avait pas cessé de regarder le chasseur qui s'avançait lentement vers lui. C'était un beau jeune homme de haute taille, vigoureux et bien fait, quoiqu'un peu maigre. Bien qu'il marchât à petits pas, ses mouvements souples indiquaient une grande légèreté. Il portait des vêtements en velours de coton gros vert, blanchis aux coutures, aux coudes et aux genoux. Un assez pauvre chapeau de paille cousu à large bord couvrait sa tête et la défendait, selon le temps, de la pluie ou du soleil. Une vieille carnassière noircie pendait sur son dos, ainsi qu'une gourde à bouchon de liège. Bien que son costume, ses fortes mains nues, son teint et un certain balancement des épaules dont les marcheurs contractent l'habitude indiquassent un habitant de la campagne, le chasseur portait toute sa barbe comme un citadin. Cette barbe, épaisse et fauve, augmentait encore l'expression un peu rude et sauvage d'un visage dont les traits, vivement accentués, avaient un singulier caractère de force et de résolution. Arrivé à quelque distance du fermier, le chasseur ôta son chapeau. « Viens-tu souper avec nous, Jean ?» lui dit le fermier. « Oui, père, si vous le permettez, » répondit le jeune homme. « Tu sais bien que tu seras toujours le bienvenu à la ferme à quelque heure qu'il te plaise d'y venir. » Le chasseur prit la main calleuse du vieux laboureur et la serra vivement. « Merci, père, je sais que vous êtes bon, » dit-il. Le père secoua sa tête toute chargée d'une épaisse forêt de cheveux grisonnants. « Je sais que tu n'écoutes pas volontiers ce que je dis, et cependant mieux m'est témoin que je ne parle que pour ton bien. »« C'est vrai, père, » répondit le jeune homme en baissant la tête. « Mais il est certain aussi que nous ne sommes pas toujours maîtres de suivre les bons conseils. Et pourquoi ?»« Demandez au chardon pourquoi il ne porte pas d'épi. » Le fermier regarda un instant son fils en silence. « Je crains bien, » reprit-il, « que l'éducation que je t'ai fait donner n'ait porté de mauvais fruits. Tu parles un langage qui n'est pas simple comme le nôtre, et il y a en toi quelque chose qui m'inquiète, sans compter ta conduite de tous les jours qui m'afflige. » « Fais-je rien de mal, père ?» demanda Jean en relevant la tête. « Non pas, sans doute, mais que fais-tu de bien ? Tu vis dans les bois comme un braconnier, au lieu de vivre dans les champs comme un laboureur. Nous le sommes tous ici, sauf toi qui es le cadet. Et ce chevreuil que tu viens de tuer, ne sort-il pas des forêts d'Amboise ?» Jean appela le chien qui léchait le sang du chevreuil et le caressa de la main. « Un de plus, un de moins, qu'importe au roi, il en attend. » Comme il versait dans le canon du fusil une charge de poudre exactement mesurée, une jeune fille en jupon rouge accourut vers lui et, le frappant sur l'épaule, le salua d'un bonjour amical. « Bonjour, Clarette, » répondit le chasseur en souriant. « Tu es toujours bonne et active à ce que je vois, et jolie aussi, ce qui ne gâte rien. Me permets-tu de t'embrasser ?»« De grand cœur, » répondit la petite paysanne. Et se haussant sur la pointe des pieds, elle présenta ses joues roses aux lèvres du chasseur qui l'embrassa cordialement. Ce baiser fit rougir Clarette jusqu'aux yeux. Elle perdit toute son assurance et se mit à rouler le bout de son tablier entre ses doigts aussitôt qu'elle fut retombée sur ses talons. « Voyons, Clarette, » reprit Jean, « voici la fête du village qui approche. Que veux-tu que je te donne ? Quelques fichus pour te faire belle ou un tablier de soie ? Ce que je veux, oui. » Clarette leva le nez, sourit, tortilla son tablier, tourna la tête deux ou trois fois comme un oiseau, regarda le chasseur du coin de l'œil et, prenant courage tout d'un coup, « Eh bien, » dit-elle vivement, « je veux que vous dansiez avec moi à la première contredanse, et deux ou trois autres après, à la danse du village. » « Voilà longtemps que j'en ai perdu l'habitude, » objecta le chasseur qui ne s'attendait pas à la demande. « Vous la reprendrez. Mais j'embrouillerai tout. Tant mieux, nous rirons davantage. » « Eh bien, » ajouta Jean, « puisque c'est ton idée, je veux bien qu'on se moque de moi. » Clairette battit des mains et eut fort envie de sauter au cou du chasseur, mais la présence du père la retint. Le fermier prit en souriant les mains des jeunes gens et les pressa toutes deux ensemble entre les siennes. Lorsque Clairette sentit sa main brune retenue entre celle du père et du fils, son cœur battit à l'étouffer. Comme elle détournait la tête pour dissimuler son embarras, elle vit arriver sur le plateau une femme à cheval que suivait un laquais. « Tiens, » s'écria-t-elle, « mademoiselle de Gaillefontaine qui vient au bord. » À ce nom, Jean retira vivement sa main et tourna la tête du côté de Mademoiselle de Gaillefontaine. Le sourire disparut de ses lèvres, et une pâleur mortelle se répandit sur son visage. Quand elle fut à quelques pas du fermier, Mademoiselle de Gaillefontaine s'inclina légèrement sur la selle. « Mon père et mon cousin se sont attardés à la chasse, » dit-elle, « et je viens les attendre chez vous, Pierre. Le voulez-vous ?»«
La maison est à vous, mademoiselle, » répondit le fermier, qui s'avança pour prendre la bride du cheval.
La jeune écuyère adressa un sourire à Clairette, un salut un peu froid au chasseur, et sauta sur l'herbe avec la vivacité d'un oiseau. Comme Clairette allait s'élancer vers elle, une main s'appuya sur son épaule et l'arrêta.
« Tu diras à mon père, » lui souffla Jean dans l'oreille, « que je ne souperai pas à la ferme, ainsi qu'on ne m'attende pas. Adieu. »
Et sifflant le grand chien roux, il s'éloigna rapidement du côté de la forêt. Bientôt après, il disparaissait sous le couvert des arbres.
« Toutes les fois qu'il rencontre mademoiselle, il s'éloigne, » murmura Clairette. « Il la déteste donc bien. »